C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Lundi 12 septembre, bonne journée, bienvenue au 98.5 avec un ciel nuageux et un peu de pluie durant la nuit. Il y a encore ce matin un faible risque d'averse, mais un dégagement va suivre. Ça demeure chaud, humide. Maximum autour de 28, l'humidex 34. Ce soir, encore là, il y aura de la pluie avec un minimum de 19 pour la nuit. Puis demain, c'est vraiment la grosse journée de pluie. Averse, risque d'orage en après-midi. On parle d'une vingtaine de millimètres de pluie. Ça peut être venteux. Puis mercredi, ça continue avec de la pluie intermittente. Maintenant, 3 semaines encore de campagne électorale. Quand je dis encore, c'est que, disons que ça a été assez intense, pas toujours les bonnes raisons, depuis le déclenchement officiel, puis il y avait eu toute la période qui a précédé. Premier constat qu'on peut faire, une avalanche presque grotesque de chèques, puis de promesses de chèques, puis de 400$, puis de 1000$, puis de baisse d'impôts, ça en est ridicule, et ça touche l'ensemble des formations politiques. Je voyais en fin de semaine Québec solidaire qui propose des billets culturels pour les immigrants d'une valeur de 200$. Tu sais, je veux bien là micro-cibler l'électorat, puis je veux bien promouvoir la culture. Mais vous trouvez pas qu'il y a une limite à prendre de l'argent public puis dire, regarde, là, si tu vas voir un show de telle vedette francophone, on va te donner une passe de 200$. Sérieux, c'est pas ça qui fait qu'on s'attache à une langue. C'est pas ça qui fait que c'est pas déterminant. Ben non, ça nuira pas. Puis peut-être qu'on va convertir quelqu'un. Mais est-ce que c'est le rôle de l'État d'aller dans le détail comme ça pour faire la promotion de la culture? Je trouve ça exagéré. Puis là, je vous parle même pas, et on va en parler tantôt avec Frédéric, là. Louis Lemieux qui est dans la bulle d'un pauvre monsieur dans un parc, puis il est là, puis il nous parle d'un 400$. Puis le prenez-vous, le 400$? Ben oui, tout le monde veut le prendre, le 400$. Ce côté-là de la campagne est un peu déplorable. Il y a eu tout le volet de l'immigration, justement. Et M. Legault en a rajouté un peu en fin de semaine en disant, entre autres, que il fallait tenir compte de l'avenir et, appelons ça, de la survie du français avec les études qui ont été déposées depuis le début. Et qui nous montre que le français, évidemment, est menacé et que M. Legault dit qu'il faut être prudent dans la façon dont on recrute les immigrants, donc favoriser l'immigration francophone. Il a comme atténué un peu le propos. Et en faisant ça, ben là, c'est la polémique des autres partis. Québec solidaire qui dit que fait peur au monde. Alors, on a beaucoup parlé d'immigration. On en a ben des chèques, mais on parle pas beaucoup d'éducation. Je sais pas si vous l'avez remarqué, là. À part quelques engagements sans véritable réelle portée, c'est un sujet qui passe sous le radar. Il reste 3 semaines, peut-être que ça va être relancé. Mais on parle de quoi, grosso modo, depuis 2 semaines? On parle essentiellement de cadeaux puis de chèques et d'immigration. Et d'impôts, puis la fiscalité de Québec solidaire, ça. Et là, est arrivé 2 événements. Vendredi, cette candidate du Parti québécois qui s'est retrouvée dans un journal de Laval parce qu'elle a déjà fait de la porn, comme on dit, puis qu'elle s'est retrouvée sur Pornhub, puis qu'elle a demandé que ça soit retiré. Son ancien chef au municipal était outré, il a reculé, là, il a rétro-pédalé, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit. Puis, je veux dire, c'est sa vie privée, d'une part, c'est pas illégal. Puis si on commence à scruter la consommation de pornographie de l'ensemble des candidats, on n'a peut-être pas fini, là. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, dans le cas d'Éric Duhaime, qui fait payer ses taxes foncières à son locataire. Je sais pas c'est quoi la nature de l'entente entre le locataire et M. Duhaime, mais c'est honnêtement du jamais vu, là. Ou en tout cas, pourquoi un locataire paierait les taxes d'un immeuble qui ne lui appartient pas? T'as le droit de faire toutes les ententes que tu veux. Pierre-Yves va nous en parler, mais je sais pas, normalement, tu calcules les taxes dans le coût annuel d'un immeuble, puis tu fixes le prix de ton loyer. Puis là, les taxes sont en retard, puis c'est le locataire qui n'a pas payé, sérieusement. Puis là, Éric Duhaime nous dit, le dossier est clos. Puis là, il n'était pas content parce que le Journal de Montréal a mis une photo des immeubles à Québec. En disant qu'il y a des menaces contre lui, des menaces contre ses candidats, il y a quelqu'un qui s'est pointé alors avec une arme blanche pendant qu'un mettait une pancarte. Je veux se rappeler que c'est le même Éric Duhaime qui a dit, moi, j'ai pas besoin de sécurité, le peuple est derrière nous. Fait que c'est pas des grands moments de la campagne, puis disons que c'est pas un autre exemple de transparence. Entre-temps, samedi soir, Pierre Poilievre est devenu chef du Parti conservateur. 68%, ça s'est réglé d'appui là, au premier tour. Jean Charest, complètement tassé. Même pas 20%. Et M. Poilievre est probablement le chef conservateur assis le plus solidement à la tête de son parti depuis Stephen Harper. Et M. Poilievre, c'est l'incarnation canadienne de ce vent du Sud, trumpiste, à la Ted Cruz, certains diront, qui souffle maintenant sur le Canada. D'un côté, c'est clair, puis de l'autre, ça ne l'est pas. Comme beaucoup de ces gens de droite, M. Poilievre, sur des questions comme l'avortement, va jouer sur les deux fronts. Va parler du respect, de la liberté, alors les pro-choix, les anti-choix, puis Charest l'avait même picossé dans un débat pour dire « Hey, peux-tu te brancher? » Puis il n'avait pas vraiment répondu. Pourquoi? Ben parce que autour de lui, dans son parti, chez ses militants, il y a plein de gens qui sont contre l'avortement. Puis je rappelle qu'aux États-Unis, on est en plein débat. On pensait que c'était réglé, mais ça recommence par un jugement d'une Cour suprême politiquement orientée. Et qu'est-ce qu'il dit, M. Poilievre? En gros, qu'il veut faire du Canada le pays le plus libre au monde. Il veut que ce pays soit dirigé par un gouvernement qui coûte moins cher. Pas un gouvernement à la Justin Trudeau qui garoche de l'argent sans compter. C'est le même M. Poilievre qui a flirté avec les camionneurs en disant « Vive la liberté », qui veut faire tomber tous les mandats concernant la vaccination. Autrement dit, c'est quelqu'un qui est à droite et qui se retrouve, sur le terrain de Maxime Bernier. Maxime Bernier, là, va falloir qu'il soit encore plus à droite que lui, là. Et la grande question, des conservateurs modérés, des gens qui sont allés avec cette vision un peu d'un nationalisme conservateur, défendant des idées de droite, mais tombant pas dans l'extrême qu'on voit, par exemple, chez M. Poilievre et ses militants. Sa grande force a été quoi? C'est comme Éric Duhaime, ça canalise la grogne, les frustrations, la colère des citoyens en sortant de cette pandémie avec toutes les mesures qui ont été prises. Alors, est-ce que ça va durer? Mais une chose est certaine. Le gars, c'est un tribun. Le gars, c'est un orateur assez solide. Et il va faire face à Justin Trudeau, qui est souvent au pays des licornes avec ses amis, là, qui se trouve actuellement en caucus au Nouveau-Brunswick. Comme on dit, ça va être un contact avec la réalité. Et quand ils vont se trouver face à face, ça risque d'être assez intéressant. En tout cas, les prochaines élections fédérales. Au moins, on a un parti à droite, clairement. Et ceux qui croyaient que M. Poilievre, d'ailleurs, j'ai jamais compris que Jean Charest, qui pourtant a du pif politique, plonge là-dedans. À moins qu'on y ait conté des histoires, là. Mais sérieusement, est-ce qu'il pouvait penser l'emporter alors que les militants sont transportés par ce courant anti-gouvernemental, anti-institution, que finalement, on se retrouve avec, là, vraiment, un bon vieux Parti conservateur face à des libéraux. Et quand il dit « je pars après les woke » et « vive au Québec, le Québec qui a résisté à la tendance woke », ça donne quand même le ton. Parfait, on va parler un peu du système de santé. La presse nous dit ce matin que le nombre de cas en attente d'intervention en gynécologie a bondi en 2 ans. Il y a des régions comme Gatineau, l'Estrie, qui sont particulièrement touchées. Je vous donne les chiffres là, disponibles. Le nombre d'opérations en attente depuis plus d'un an a bondi de 2 500 à 20 000 au Québec entre janvier 2020 et juin 2022. je vous le disais, dans deux régions en particulier, le Gatineau et l'Estrie, là, Sherbrooke. Pourquoi? Parce que ce sont des interventions qui passent après les autres. Et ce sont pas des cas de cancer. C'est pas un cas majeur de survie. Il y a une question d'effectif également. Mais ce sont des femmes qui attendent, puis dans certains cas, qui vivent avec des effets secondaires de leurs problèmes de santé. Puis quand on interroge les médecins sur place, ils disent à peu près la même chose. Les interventions très spécialisées ou encore très urgentes passent avant. Alors, quand c'est pas la gynéco, c'est l'orthopédie, ce sont des interventions qui tardent, puis tu dis, ben c'est pas grave si je repousse ça de 6 mois. J'ai d'autres cas, puis je manque de personnel. Et c'est essentiellement, si vous voulez, cette démarche qui demeure extrêmement pénible pour beaucoup de femmes qui attendent, puis pour des hommes aussi dans différents types de chirurgie. Parlons de la guerre en Ukraine. Il y a quand même eu des éléments importants nouveaux en fin de semaine. D'abord, l'Ukraine qui dit avoir des succès militaires concrets contre l'armée russe dans plusieurs parties du territoire. Même Moscou, ce qui n'est pas arrivé depuis le début, reconnaît avoir perdu du terrain. Il semble que l'armée a pu reprendre le contrôle de certaines villes comme Izium, qui est dans l'est du pays. Il y a des frappes russes également sur plusieurs infrastructures stratégiques. Il y a des milliers de personnes qui ont quitté Kharkiv, qui est le théâtre de la contre-offensive ukrainienne pour la Russie en l'espace de 24 heures. Et le président Poutine qui a fait une mise en garde, et on connaît le ton de Poutine, sur les conséquences catastrophiques, a-t-il dit, à venir, si jamais les attaques ukrainiennes se continuent sur le complexe nucléaire de Zaporizhia. Et ça, c'est vraiment un enjeu. Jean-François Lépine en a beaucoup parlé la semaine dernière. Il sera de retour avec nous pour faire le point ce matin. Mais il y a quand même un blitz important de l'armée ukrainienne. Les funérailles de la reine Elisabeth II auront lieu lundi prochain. Les cérémonies protocolaires se poursuivent. On sait que le corps de la reine a quitté le château de Balmoral. Un long convoi avec des gens tout au long du parcours. Et ce matin, par exemple, on a assisté, il y a quelques moments, à un discours du nouveau roi, le Charles III, qui a fait son discours officiel, une grande cérémonie. Et pour tout vous dire, faire une petite confidence ce matin, tout en reconnaissant le caractère historique de la reine Élisabeth, 70 ans de règne, l'impact qu'elle a eu, je trouve la couverture un peu délirante. Perso, là, c'est comme, OK, elle est décédée, on lui rend hommage, très bien. Puis il y aura des moments forts, là, comme les funérailles. Puis... Mais pas juste en Grande-Bretagne. Je regarde nos chaînes, je regarde CNN. C'est pas du mur à mur, mais disons que c'est omniprésent. Puis il me semble qu'on a des enjeux aussi à débattre. Mais en tout cas, c'est vraiment très personnel, avec tous ces potins sur les propos et confidences de William. Donc, à suivre. Ce matin aussi, je vais revenir... concernant les changements climatiques, il y a eu ce rapport qui a été publié vendredi, qu'on a retrouvé donc dans la revue Science, qui montre essentiellement que le réchauffement planétaire a peut-être atteint un point de non-retour. Ça fait longtemps qu'on dit ça, mais il pourrait donc y avoir des perturbations irréversibles. Alors, puis il y a des points qui ont été identifiés, notamment au Canada, l'effondrement de la calotte glaciaire, et également des modifications, la disparition en fait des récifs de coraux dans des courants océaniques, dans la mer du Labrador. Tout ça peut vous paraître bien compliqué, mais ce que ça veut dire dans le fond, c'est qu'on a beau avoir des débats ici sur les gaz à effet de serre, là, c'est que peut-être qu'il est trop tard. En tout cas, trop tard pour avoir un changement significatif, ce qui fait qu'on doit penser davantage à un mode de se préparer au changement climatique. Et là, je vous le dis, on va avoir des bonnes discussions dans les prochaines semaines concernant l'aménagement du territoire. Ce matin, dans la presse, on nous dit que le règlement qui vise à protéger les milieux naturels dans tout le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, là, pis c'est large, vous le savez, là, ça inclut la rive nord, ça inclut la rive sud, ben, y a déjà des contestations devant les tribunaux. Il y a des promoteurs qui disent « Hey, on a des terrains, puis c'est pas vrai, vous allez nous empêcher de développer ça. » Et le maire de Laval, Stéphane Boyer, qui sera avec nous, publie un livre. puis je vous dirais qu'il faut le faire. Être maire de Laval, et le titre du livre, c'est « Des quartiers sans auto, sans voiture ». C'est le titre. Il propose un autre mode d'aménagement du territoire. Puis dans ce sens-là, c'est quand même super important. Puis je vais finir ce matin. C'est un chroniqueur que j'aime bien lire dans le monde du sport parce que je trouve qu'il apporte un éclairage intéressant. C'est Martin Leclerc sur le site de Radio-Canada. Et il pose la question, toujours la même, mais toujours d'actualité, est-ce qu'il faudrait interdire aux parents d'assister aux matchs de leurs enfants? Et il donne l'exemple du baseball, où il y a une augmentation du nombre de joueurs, mais en même temps, le nombre d'arbitres, et pour vous donner les chiffres, là, 6 % de joueurs de plus, 37 % d'arbitres de moins, parce qu'ils sont tannés de se faire crier après par des parents débiles. Et il a demandé à quelqu'un d'aller observer des matchs. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Le gars s'appelle Richard Blouin, ex-membre de l'équipe de baseball Québec, juge de boxe. Alors, il est allé sur place, je cite Martin Leclerc, qui dit, en fait, qui cite M. Blouin, « Je me suis placé en mode observation au cours des premières semaines de la saison. Et ce qui m'a tout de suite marqué, c'est l'agressivité de certains parents. À un des matchs, j'ai vu un parent qui s'est écrié « Come on, ref, wake up! » Il n'y avait que 4 lancers défectués dans le match. Puis le parent commençait à s'énerver. Et là, on se demande, est-ce qu'on devrait interdire aux parents d'assister au premier match de la saison et au dernier match de la saison pour amener des parents qui sont civilisés à faire pression sur les fous pour que les fous se calment? Je sais, puis c'est vrai au hockey, puis c'est vrai dans un paquet de disciplines, mais je trouve que ça vaut la peine quand même de se rappeler ça. Là, on va recommencer les activités de hockey, on termine là. Baseball, c'est pas mal fini, soccer et tout ça. Puis même dans d'autres types de disciplines. Puis d'ailleurs, on fait des liens avec l'école, tu comprends? Mon enfant a un échec, c'est pas de sa faute, c'est la faute du prof. Mon enfant est pas 3A, ben c'est la faute de ceux qui font la sélection. Mon enfant n'a pas compté, c'est la faute de l'arbitre. Tu sais, c'est toujours la faute de quelqu'un qui explique pourquoi l'enfant chéri a pas tout ce qu'il désire dans la vie. Vous lirez ça ce matin sur le site de Radio-Canada.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Code bleu, chambre 409.
Emmanuel Saint-Cyr, urgentologue.
Pascal Saint-Cyr, directeur des services professionnels de l'hôpital.
On va la monter en salle d'obstat.
J'ai fait ce qu'il fallait faire.
La plainte a été retirée.
Avec le départ de District 31, s'amorce cette bataille de 19 heures, comme l'ont qualifié plusieurs journalistes, entre deux séries, une présentée à Radio-Canada, Stat, et la série Indéfendable présentée par TVA. Mais dans le fond, c'est une bataille de diffuseurs, parce que sur le terrain, sur les plateaux, ce sont des actrices, des acteurs qui vont défendre des rôles dans deux univers complètement différents. Je vous présente d'abord Suzanne Clément, qui incarne l'urgentologue Emmanuel Saint-Cyr dans la série Stat. Madame Clément, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, première question toute simple. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui à une série qui demande un investissement majeur comme ça?
Ben, je pense que c'est incontournable. Je pense que moi, les grands dangers qu'on m'offre, on dirait que je suis forcée d'y aller. Et je pense que ce rythme-là de travail, cette espèce de jungle mentale dans laquelle je me suis plongée, c'est tellement incontournable. Donc, j'ai dit oui parce qu'il faut y aller quand ça fait peur.
Qu'est-ce qui fait peur dans ce projet-là, surtout?
Ben, l'ampleur de la tâche. Je dirais même au niveau de la mémoire, on dit bien que la mémoire, c'est un muscle qui se travaille. Et là, dans ce cas-ci, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que moi, surtout le personnage central que je suis, l'ampleur de la tâche est énorme. Mais il n'y a pas que ça, c'est aussi on s'appuie sur des textes qui sont formidables. C'est une femme d'une grande intelligence, d'une grande finesse, Marie-Andrée Labbé. Donc elle décline ses personnages sur plein de plans, on va dire. Et ça aussi, à tous les jours se remet à avoir le privilège de dire ces mots-là, d'être physiquement corps, âme, tête impliquée, puis que ça aille dans un rythme aussi intense. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait. Ce paradigme-là m'a toujours intéressée. Donc voilà, je suis extrêmement ravie d'ailleurs, même si je trouve ça parfois j'ai de la broue dans le toupette comme on dit, mais je suis assez enivrée par ce projet, par les acteurs avec qui je joue, par le sujet aussi.
L'univers des hôpitaux, des salles d'urgence en particulier, on a vu ça dans plusieurs séries. J'ai regardé les deux premiers épisodes. Il y a évidemment, bon, tout le volet hôpital, mais il y a le volet des vies personnelles, des drames qui touchent chacun des personnages. Êtes-vous allé dans les hôpitaux? Êtes-vous allé observer ce qui se passe sur le terrain?
Oui, c'est ça. J'ai eu vraiment la grande chance et le grand privilège de suivre plusieurs urgentologues, mais entre autres une urgentologue qui est absolument formidable. Et donc, j'ai eu un modèle très fort de femme urgentologue qui est à la fois une grande intelligence, une grande vivacité, puis une grande humanité aussi. Donc, j'avoue que elle m'a donné sur un plateau d'argent une matière concrète sur laquelle m'appuyer pour le travail, puis aussi de voir comment ils se meuvent physiquement, comment ils touchent leur stéthoscope, où est-ce qu'ils mangent, combien de temps, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour manger. En général, il y en a qui mangent sur leur poste de travail dans des plus petits hôpitaux, sinon ils ont un petit coin à eux, mais c'est 15, 20 minutes, une demi-heure maximum de ce que moi j'ai vu. Pour être proche des cas toujours. En plus, ils sont des fois de garde en réanimation. Ça veut dire qu'il faut qu'ils, non seulement ils enchaînent des cas très, très différents. C'est absolument passionnant, même quand. Ça peut pas être plus passionnant. D'un cubicule à l'autre, c'est une nouvelle personne, une nouvelle dynamique aussi. Des fois, les gens sont accompagnés. Il y a une dynamique psychologique qui rentre en jeu. Il y a une forme d'investigation à faire. Même des fois, c'est frontal. Des questions très claires, d'autres fois, c'est d'avoir des petites informations pour comprendre l'ampleur du cas. Et puis là, quand ils sont en réanimation, ben en plus, il faut que tout à coup, ils sont appelés, puis il y a un cas qui arrive en ambulance, puis là, c'est des cas beaucoup plus complexes, et où là, ils vont aller diriger une équipe d'intervention. Donc, il faut un sang-froid assez incroyable. Puis c'est souvent... Ben, l'urgentologue me disait que souvent, il y a des gens un peu hyperactifs. Je sais pas si moi, je le suis pour le jouer, mais peut-être un peu. C'est-à-dire des gens qui vont fonctionner très, très bien quand il y a beaucoup, beaucoup de données à gérer, puis que ça change beaucoup. Donc...
L'urgentologue à qui vous faites allusion, je pense que c'est le docteur Blondin, c'est ça?
C'est ça. Ben,
Blondin.
J'ai pas vérifié avec René, c'était correct avec lui. Mais là, ça y est. Oui, c'est une médecin formidable, vraiment.
Mais avez-vous senti l'urgence déborder, les gens qui attendent depuis longtemps, l'espèce de le temps supplémentaire obligatoire, ce qu'on décrit là, quand on parle des urgences au Québec?
Oui, tout à fait. Puis c'est ça qui est beau aussi, c'est que la série va vraiment suivre. J'ai l'impression qu'une quotidienne, ça peut être un peu comme une espèce de place publique dans le temps des Grecs, où est-ce qu'on va évacuer ou en tout cas discuter des problématiques sociales du moment. Et puis, oui, j'ai senti tout à fait ça. Bon, évidemment, eux, ils sont dans le travail. Fait que ils partent aux difficultés. Ils n'ont pas le choix. Là, ils avancent. Ils n'en discutent pas pendant des heures non plus. Mais oui, la pénurie, je veux dire, une section complète qui est fermée parce que il y a pas assez d'infirmières. Ça existe. Les infirmières, oui, une infirmière dans un autre hôpital qui me disait... Oh mon Dieu, je veux pas quelque chose comme quoi, oh, je suis découragée. Là, je viens d'apprendre que j'ai une, ça y est, faut que j'aille en heure sup, tu sais. Puis un découragement qui est pas parce que beaucoup de gens, ce que j'ai senti, qui ont une vocation. Puis ça, c'est pas tous les métiers qui donnent, qui ont ça là, qui ont des gens pour qui c'est une vocation. Mais donc il y avait un découragement, mais il y avait aussi une affaire de. J'ai pas le choix, puis je vais le faire parce que ça fait partie de mon de ce qui est dans mon ADN là. Donc c'est ça, la série va aussi pouvoir parce qu'évidemment l'hôpital aussi, il y a une urgentologue qui me disait c'est le lieu où on ressent la finalité de la vie. C'est très particulier d'un hôpital, ça. Tous et chacun, on l'a vécu. Quand on arrive à l'hôpital, c'est parce que soit on est en fragilité, en vulnérabilité, ou un de nos proches l'est. Donc, des fois, on a accès à une partie de nous-mêmes ou des autres qu'on voit pas dans la vie de tous les jours quand on a notre masque public ou notre espèce de carapace humaine. Tu sais, il y a des brèches qui s'ouvrent dans les hôpitaux. Fait que ces gens-là, ils ont accès à ça tout le temps.
Ils sont confrontés à ça au quotidien.
Ils sont confrontés à ça. Oui, quand on revient chez soi, j'imagine, après une journée comme ça, moi, des fois, je revenais puis je me disais, OK, wow, faut digérer ça. Là. Je ne sais pas comment chaque personne le fait, mais je pense que la série va s'adresser aussi à ça parce que c'est quatre amis. Il y a aussi mon frère, joue au temps normand d'amour, mes quatre amis qui se côtoient puis qui ont besoin aussi d'aller faire des soupers ensemble. Puis...
Alors ça commence ce soir, 19h, oui. Des épisodes d'une heure cette semaine. Bonne saison à vous, merci d'avoir été là.
Je vous remercie beaucoup.
Au revoir. Suzanne Clément, série Stat, ça commence ce soir, 19h.
J'ai pas sorti mon arme.
J'essaie juste de savoir c'est quoi qui s'est passé pour que tu commettes ce geste-là.
Hey, tu me chais des deux bords, m'en rappelle pas ce que j'ai fait.
Bonjour, Inès Saïd, la nouvelle stagiaire.
Alors, l'autre série, Indéfendable, présentée à TVA, donc à 19h. Et plus tôt, la semaine dernière, j'ai parlé avec Sébastien Delorme, parce qu'évidemment, il se promène sur les plateaux de tournage au quotidien, sur son personnage, un criminaliste, Léo McDonald. Et je lui ai demandé d'abord de décrire un peu qui est cet avocat.
C'est un très bon avocat, charismatique, talentueux, doué. Je pense qu'il est très, très travaillant. Ses causes, il les prend à cœur. Et comme il les prend à cœur, il y a un attachement profond à défendre les gens qui sont en difficulté. En fait, c'est comme ça que j'ai réussi à me dire comment tu peux défendre quelqu'un qui est accusé d'un meurtre. Tu sais, fait que je me suis dit, il y a des moments dans la vie n'est pas linéaire. Il y a des moments où est-ce que le chaos arrive, puis t'es plongé dans ce chaos-là, puis c'est pas, ça te ressemble pas tout comment t'as réagi. Puis dans ces moments-là, la panique, ainsi de suite, les émotions font que t'agis différemment. Puis là, tu te retrouves dans le trouble. Puis tu as besoin de quelqu'un pour t'aider. Puis c'est là que l'existence de l'avocat de la défense est importante. Mais c'est le même que j'ai réussi à parce que je pense vraiment que j'avais une pensée comme une couronne. Je jugeais sans qu'il y ait de procès dans ma vie, quand je regarde les choses dans les journaux. Puis il a fallu que je change un peu mon minding pour me dire, ben c'est quoi qui se c'est vraiment passé. Y a-t-il des circonstances atténuantes? C'est-tu vraiment ça qui s'est passé? Ça, c'est un point de vue qui est véhiculé, mais il y a sûrement autre chose, tu sais.
Est-ce que tu t'es dit, si un jour je suis dans le trouble, j'aimerais aussi compter sur un avocat qui va prendre ma défense, qui va essayer de me représenter le mieux possible?
Ben oui. Oh oui, puis ça peut arriver, ça. Je connais du monde qui ont eu besoin d'avoir ça, puis les conseils qui leur ont été donnés leur ont aidé à passer à travers les difficultés, puis parce que ça peut arrêter d'une certaine façon une vie, mais quand t'es bien défendu, tu peux t'en sortir puis continuer à vivre une vie normale. Je reste dans le vague là, je veux pas
ouais, non, non,
précisément ouais. Donner, mais on s'entend que c'est ça.
OK. De passer d'une série comme District 31, bon, très marquante avec ton personnage très fort, qui jouait le rôle d'un policier à celui de la partie adverse qui est devenu donc le procureur de la défense, est-ce que tu penses que c'est difficile, pas pour l'acteur, mais pour le public, comme on dit, de faire la transition?
Bien, d'oublier le fameux
Poupou. Oublier Poupou, puis se dire, on a affaire à un avocat, là, maintenant.
Écoute, j'ai pas la même façon de parler. Je porte une toche, je porte des complets vestons. Je tiens pas le même genre d'arrogance que Poupou pouvait avoir. Donc, il y a plein d'éléments qui sont assez différents. Je dis des mots que Poupou aurait pas dit. moi, je m'explique que c'est comme la suite pour moi de quand les meurtres arrivent au District 31, après ça, il y a une suite, ben c'est dans Indéfendable que ça se passe après ça.
Est-ce que, avant d'accepter de prendre ce rôle dans Indéfendable, qui est un rôle, là, encore une fois, c'est une quotidienne, c'est un des rôles clés de la série, t'as hésité en raison de la somme de travail que ça représente? Tu le savais ce que ça voulait dire? T'avais fait District 31. Est-ce que t'as dit, ouais, est-ce que je repars dans un marathon, là?
J'ai tout évalué ça. est-ce que ça me tente? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai... Puis je me suis dit, bon, je suis habitué. C'est pas quelque chose de nouveau. J'ai encore une bonne mémoire, je suis encore en santé. Est-ce que... C'était le challenge. Ça me tentait d'avoir un défi. C'était tellement bon sur papier. J'ai fait, je peux pas passer à côté de ça. C'est extraordinaire. D'ailleurs, je mets au défi n'importe quel comédien à qui ça leur aurait été offert d'avoir dit non à quelque chose comme ça.
Parce que?
C'était bien écrit. Parce que c'est encore bien écrit. Puis je reçois les textes encore. Puis chaque cause est passionnante. Ça paraît aussi que il y a l'expertise de gens compétents comme maître Richard Dubé qui est derrière tout ça, puis Isabelle qui a fait du documentaire pendant 15 ans justement sur ce qui se passe en cours, sur des causes en particulier. C'est solide, c'est bon, c'est pas de l'esbrouffe là, c'est pas, on fait pas semblant d'être à la cour, c'est toute vérité. Quand c'est aussi fort sur papier, je me suis dit, ben, let's go. Je me sens super bien accompagné. Je me suis fait coacher par Richard, d'ailleurs, pour savoir comment faire en cours, comment poser des questions pour arriver à la réponse qu'on veut. Je pense que tu es habitué à faire ça, Paul.
Oui, mais non, mais j'allais dire, j'ai vu les 4 premiers épisodes et... Ouais. On découvre quand même plusieurs facettes rapidement de chacun des personnages. Bon, le tien, puis je donnerai pas de détails, les gens vont le découvrir. Mais est-ce que toi, tu sais exactement l'ensemble de la vie de Leo McDonald, ou si épisode par épisode, texte après texte, tu découvres des faces cachées de sa vie?
La courbe était déjà bien établie. Il y avait déjà beaucoup d'épisodes décrits. Et je connais même la courbe de la deuxième saison puis de la troisième saison, s'il y en a. C'est un projet qui mijote dans la tête d'Isabelle Chevrier et de Richard depuis longtemps. Et donc, je sais où je m'en vais, ce qui est très le fun. Puis ça paraît que ça a été réfléchi. Puis à la fois, ça, c'est le fun parce que ça demeure surprenant en même temps quand ça arrive dans les épisodes. Ouais. On est rendu à épisode 80, nous autres, sur 120 de tournée déjà.
Donc, ça veut dire que cet automne, ça sera terminé pour la première saison.
Mi-novembre, je suis en congé. qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je pense que je vais prendre des vacances.
Ça m'apparaît très juste. Merci beaucoup, Sébastien. Ouais. Bonne saison.
Merci, Paul.
Salut, bye. À bientôt. Alors, Pierre Poilievre a été élu chef du Parti conservateur. Une victoire claire, nette, précise, 68% des voix dès le premier tour de scrutin. C'est donc une défaite sévère pour Jean Charest, qui voyait là une opportunité de peut-être recentrer le parti. J'en parle ce matin avec Pierre Paulus, qui est député conservateur et le seul parmi les députés québécois qui a donné son appui à M. Poilievre. M. Paulus, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, donc, c'est une victoire très claire, mais en même temps, est-ce que cette victoire-là vient pas aussi définir ce que devient ou ce qui est devenu le Parti conservateur, donc un parti plus à droite qu'il ne l'était?
Plus à droite, je dirais pas, mais est-ce que c'est clairement un parti de droite? Oui. Et souvent, on a eu tendance dans les dernières années à vouloir se promener un peu, à essayer trop d'imiter les libéraux. Mais à un moment donné, il faut se définir. La définition claire du Parti conservateur du Canada, c'est un parti de droite, de centre-droite. Il y a des éléments qui ont tendance peut-être à vouloir un petit plus à droite un peu, d'autres plus modérés, mais il reste comme la grande coalition conservatrice d'un parti conservateur de droite, tout simplement.
OK, mais quand on prend certains thèmes qui sont revenus durant cette course au leadership, puis ça hante votre parti depuis longtemps, là, la question de l'avortement, il y a des gens qui sont en faveur du libre choix, il y en a qui s'y opposent. Votre chef est assez flou sur la question, là, personnellement.
Ah, il est clair là-dessus.
Ah, pas trouvé, moi.
On fait les comparatifs avec Donald Trump, ça, je trouve ça vraiment ridicule aussi, parce que M. Poilievre, il est pour le mariage gay, il est pro-choix, il est pour l'immigration, il est contre les grands déficits comme Trump a fait. Je veux dire, les comparaisons avec Trump, on sait pas d'où ça vient. Ça, c'est notre adversaire dans la course à chefferie qui essaie de définir, nous définir comme ça.
Ben quand on voit M. Poilievre avec le convoi de la liberté, quand on le voit fraterniser avec ces gens-là, quand on le voit défendre le Bitcoin, quand on... Il y a quand même, on peut pas nier que ce vent de droite souffle un petit peu en venant des États-Unis, là.
Ouais, non, ben c'est
cool. La grogne sur les mesures sanitaires, tout ça,
là. Effectivement, mais la grogne, bon, premièrement, c'est Justin Trudeau qui l'a provoqué. Oublions pas, il y a même Joël Lightbound, député libéral de Louis-Hébert, qui a fait une sortie magistrale au printemps passé pour dénoncer son gouvernement et dénoncer Justin Trudeau en disant tu te sers de la pandémie pour faire de la politique, là. Ça crée une grogne chez les citoyens. Puis c'est des choses que, oui, on a peut-être récupéré politiquement de notre côté parce qu'on a des gens qui sont pas contents, ils veulent s'adresser à quelqu'un. C'est une chose. Mais de dire que l'on crée une politique à la façon américaine, c'est pas vrai. On est au Canada, on fait nos choses. M. Poilievre est député depuis 17 ans, on a été ministre au cabinet de M. Harper. Je veux dire, il y a un style, il y a un style particulier, mais il reste que c'est son style qui fait en sorte qu'on a 68% du vote aujourd'hui et 63% des conservateurs québécois qui ont voté pour lui, dont la grande majorité des circonscriptions ont été gagnées. Donc, à un moment donné, c'est juste de dire, on est des conservateurs, on n'est pas complexé de le dire, on s'attaque à une gauche radicale, on a des gens, quand on parle de wokisme, des gens qui, eux, ont toujours raison, à un moment donné, c'est assez. C'est ça que Pierre Poilievre ramène, c'est de dire c'est assez. Parce qu'on a... Alors, oublions pas qu'aux dernières élections, on a toujours une majorité de Canadiens qui ont voté conservateurs. Peut-être que le vote est réparti un peu différemment au pays, évidemment.
Mais ce que vous me dites, M. Paulus, là, depuis tantôt, en un mot, là, vous dites, en gros, là, on a eu des chefs conservateurs mous qui se sont pliés à l'air du temps pour pas trop provoquer, demeurer au centre. Là, au moins, ça a le mérite d'être là. Il est à droite. Puis, c'est comme ça qu'il va se positionner contre Trudeau.
Une droite, oui, mais une droite équilibrée. On n'est pas à l'extrême droite, pas du tout.
Êtes-vous plus à droite que Maxime Bernier ou moins à droite que Maxime Bernier?
Ben non. Puis il y a les comparaisons avec Maxime Bernier aussi. Là, je veux dire, Maxime, là, il est dans son univers. Là. Nous, on est le Parti conservateur du Canada, un grand parti national.
OK, mais en quoi vous êtes différent de Maxime Bernier? Expliquez-moi ça ce matin.
Ben, c'est parce que nous, on a-tu du temps. Mais
Maxime, donnez-moi un exemple ou deux où Maxime Bernier est plus à droite que vous.
Ben, par exemple, la gestion de l'offre. Maxime s'est mis clairement contre la gestion de l'offre. M. Poilievre est pour la gestion de l'offre. Là, je veux dire, il y a des éléments comme ça économiques, mais quand on parle de droite, premièrement, c'est que de dire on veut reparler de l'exportation du pétrole. Nous, on en parle, on trouve que c'est important, du gaz naturel surtout, les projets comme GNL, on ramène ça sur la table. Bon, ben la gauche va dire non, il n'y a pas question. Nous, on est à droite, on se dit oui.
Mais GNL, là, la CAQ est pas d'accord avec ça. Puis aux dernières nouvelles, la CAQ, c'est pas la gauche, là.
Non, je le sais, mais est-ce qu'on peut réouvrir les discussions compte tenu de la situation qu'on voit en Ukraine actuellement, que l'Allemagne est privée de gaz bloqué par la Russie? C'est des discussions qu'on doit avoir et c'est pour ça quand on dit on est décomplexé, c'est dans le sens que est-ce que la discussion peut avoir lieu? Oui. Est-ce que le résultat final sera celui qu'on aimerait? Peut-être pas, mais si on peut pas en parler ou si on peut pas ouvrir la discussion, on a un problème. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, M. Poilievre, et ce que j'apprécie de lui, c'est quelqu'un qui ose amener les sujets sur la table, il est pas complexé, et après ça, la décision se prend, quand la décision est prise, on passe à un autre sujet. Donc c'est ça qui est important de faire actuellement, et d'arrêter d'avoir peur.
Avez-vous l'impression, puis je regarde je vais prendre le Québec seulement, là. C'est vrai qu'il est allé chercher une majorité d'appui au Québec, mais vous êtes le seul des 10 députés conservateurs à avoir donné votre appui, d'avoir donné un appui à M. Poilievre. Les 9 autres, ils vont faire quoi dans votre parti, vous pensez?
Ils vont rester. Moi, ce que je m'attends, c'est comme on a fait il y a 2 ans. Moi, j'étais dans l'équipe, on était 7 avec Peter McKay. Monsieur McKay a perdu, c'est Erin O'Toole qui a gagné. On s'est rallié à Erin O'Toole, puis on a continué. Donc, ce que j'espère le plus profondément, c'est que mes collègues du Québec se rallient à Monsieur Poilievre. Ce matin, on a des rencontres, on a un premier caucus. On se parle ensemble, puis à partir de là, on établit les bases là pour le futur et on continue. C'est ce qu'il faut faire.
OK, mais... Comme on dit souvent en politique, le plus dur, c'est une fois élu, c'est d'assumer qui on est. Vous m'avez dit, on est de droite, centre-droite, on peut en débattre, là. Mais vous êtes carrément de droite. Ce que vous dites aux Canadiens, après cette victoire-là, il faut avoir un discours cohérent, coupé dans les services de l'État. M. Poilievre a dit, ça va être le pays le plus libre qu'il a jamais été. On va mettre fin à tout ce qu'il y a de mesures restrictives concernant la pandémie, mesures sanitaires. Le gouverneur de la Banque du Canada, la tête va y rouler. Vous allez maintenir ce discours-là?
Ben, maintenir le discours. Premièrement, une course à la chefferie, c'est une course, c'est une étape qui...
Oui, mais on peut pas dire le contraire une fois qu'on est élu, là. Okay? On peut pas dire le contraire une fois qu'on est élu.
Oui, non, je comprends ça. Mais prenons, par exemple, le gouverneur de la Banque du Canada. L'idée était de dire, est-ce que le gouverneur de la Banque du Canada a commis une erreur en ne prenant pas une décision assez rapide?
Non, l'idée, oui. C'est que, non, le fait, c'est qu'il a dit, il m'en débarrasser.
Oui, par la suite, parce qu'il a dit, il n'a pas les compétences, donc je vais m'en débarrasser. Est-ce que ça paraît extrême dans un contexte habituel? Oui, mais est-ce que dans un contexte de se dire, est-ce qu'il y a des gens, parfois, dans des postes critiques, qui manquent de compétences ou qui devraient être changés? C'est ça, d'être ouvert à le dire. Et souvent, au Canada, on a une gêne par rapport à ça.
Non, mais moi, c'est pas une gêne. C'est la question, puis je vous le dis, là, j'ai observé beaucoup aux États-Unis, un candidat qui dit des affaires pour se faire élire peut pas prétendre dire le contraire une fois qu'il est élu pour essayer de séduire une partie de l'électorat.
On ne dit pas le contraire. Il l'assume. M. Poilievre assume ce qu'il a dit par rapport au gouverneur de la Banque du Canada. C'est dans le même sens que, comme je vous dis, est-ce que s'il y a d'autres individus, personnes qui sont incompétents au Canada, est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut demander un changement? C'est ça, à un moment donné, là, s'assumer, parce qu'on voit qu'il y a des problèmes. Moi, je peux vous dire que j'en vois des problèmes ici à Ottawa depuis 7 ans sur la gestion, par exemple, de contrats militaires, des contrats de défense. C'est épouvantable, l'argent qui se gaspille au Canada, des milliards de dollars. Et est-ce qu'on a le droit de le dire? Est-ce qu'on a le droit de soulever de lever un drapeau et dire, attention, là, il faut arrêter ça. Puis s'il y a des personnes qui gèrent ces contrats-là, qui devraient être déplacées, ben faisons-le. Mais si on peut pas le dire, parce qu'au Canada, il faut toujours être gentil, c'est ça, à un moment donné. Moi, je suis rendu aussi à l'étape de dire, est-ce qu'on doit changer les choses, si on doit les changer? Et je crois que oui.
Allez-vous devenir lieutenant du Québec?
Ah, ça appartient au chef, on verra. Là,
Ils n'en ont pas parlé?
Ah, ben, comme vous savez, c'est des discussions, on jase un peu de tout, mais là, pour l'instant, là, M. Poilievre, priorité, c'est de rencontrer son caucus ce matin, puis après ça, on verra pour la suite des choses.
Parfait. Merci, M. Paulus. Bonne journée.
Merci, M. Arcand.
Au revoir. Pierre Paulus est député conservateur et le seul qui a appuyé Pierre Poilievre dans la course au leadership.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Les Ukrainiens affirment avoir reconquis des kilomètres carrés de territoire. Ce qui étonne un peu peut-être, c'est que Moscou reconnaît avoir reculé. On va faire le point sur cette question-là ce matin avec Jean-François Lépine. Bonjour Jean-François.
Bonjour Paul.
Alors donc, c'est vrai, des gains importants quand même pour les forces ukrainiennes.
On parle de 2000 kilomètres carrés, on parle d'une vingtaine de villes et villages, dont la ville... Je sais que vous l'avez mentionné dans l'émission un peu plus tôt, la ville d'Izium. Ça, c'est important parce que c'était un pôle logistique important pour les Russes dans leur conquête, là, qui voulait terminer de tout l'Est, toute la région du Donbass. Alors, il y a des témoignages de gens qui disent que les soldats russes quittaient leur position tellement vite qu'ils abandonnaient sur place leurs armes. Qu'est-ce qu'il faut voir dans ça? Est-ce que c'est un renversement de situation? C'est un peu la grande question. Il y a aussi des gains de la part des Ukrainiens dans le sud autour de la fameuse ville de Kherson, qui est la première ville qui avait été prise par les Russes au tout début de la guerre. Ça, c'est une avancée plus lente, mais c'est quand même des gains aussi. Puis on voit que du côté de Moscou, à la fois il y a une reconnaissance de ce qui se passe, mais aussi il y a une contre-attaque. Il y a eu beaucoup de bombardements qui visaient la nuit dernière et hier des infrastructures clés, surtout des centrales thermiques, entre autres, le but de l'opération étant d'intimider, de priver les Ukrainiens d'énergie. Donc, où est-ce qu'on s'en va dans tout ça? C'est la grande question aujourd'hui. Est-ce que ça va continuer à progresser? Est-ce que c'est une véritable contre-offensive qui s'amorce, puis un revirement de la situation dans la guerre? Chose certaine, on a vu hier dans les médias sociaux en Russie des critiques à l'endroit de Vladimir Poutine et de sa stratégie en Ukraine. Entre autres, à l'occasion d'un événement qui s'est déroulé à Moscou, où Poutine a inauguré une grande roue dans un parc de Moscou pour célébrer le 875e anniversaire de la création de la ville, ben, on a vu les partisans de l'invasion de l'Ukraine reprocher sur les médias sociaux au président Poutine de dépenser de l'argent pour des choses superficielles, alors que les soldats au front, et c'est connu, manque de tout, d'armes, de munitions, de nourriture, d'aide médicale. Ils accusent l'état-major russe aussi de cacher à Poutine la réalité sur le terrain. C'est pas la première fois qu'on dit ça depuis le début du conflit. Les membres de l'état-major russe qui osent pas annoncer de mauvaises nouvelles au président de peur de le contredire ou de peur de susciter sa colère. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux questions peut-être clés. Est-ce que, voyant si cette offensive-là se poursuit du côté de Moscou, on aurait recours là à des armes dont il a encore un grand nombre, qui possède encore un grand nombre, c'est-à-dire des armes à plus grande portée. Donc, est-ce qu'on va recommencer des bombardements massifs parce que sur le terrain, on perd? Et est-ce que, c'est toujours le danger que tout le monde craint, on va utiliser des armes nucléaires tactiques? Ça, c'est la grande menace. Et puis, de l'autre côté, si la contre-offensive s'arrête au cours des prochaines semaines, l'hiver s'en vient. La grande question de ce conflit-là, c'est les Européens surtout, vont-ils continuer à souffrir de cette guerre-là durant l'hiver qui s'en vient? Parce que l'autre arme de Poutine, c'est bien sûr les hydrocarbures, pétrole et gaz, et il coupe les robinets. La situation va être très difficile en Europe. L'appui à l'Ukraine va-t-il se maintenir?
Revenons sur le décès de la reine Élisabeth II. Au-delà des cérémonies, il y a des enjeux quand même importants sur le plan politique. Et une des questions qui revient sur la table régulièrement, est-ce que le nouveau roi, Charles III, va être capable de maintenir l'ex-empire britannique, donc le Commonwealth, et tous les pays qui en sont encore membres?
Oui, c'est la grande question. Peut-être l'impact international là, du décès de la reine Élisabeth, en même temps que le roi Charles se faisait proclamer en fin de semaine. Le premier ministre d'Antigua et Barbuda, un tout petit pays là des Antilles, annonçait la tenue pour l'an prochain d'un référendum sur la monarchie constitutionnelle. Là, est-ce qu'on va assister au cours des prochains mois, au cours des prochaines années, parce que la reine peut-être, avec son aura, on n'osait pas l'affronter ouvertement. Est-ce que là, avec un changement de personnage, avec l'arrivée d'un personnage peut-être moins important sur le plan du rayonnement international que ne l'était la reine, est-ce qu'il n'y aura pas de remise en question? Paul, ça vaut la peine de le rappeler. Quand Élisabeth était enfant, avant de devenir reine, la monarchie britannique régnait sur 55 territoires outre-mer, dans un empire où on disait que le soleil se couchait jamais, la vieille phrase type. Ben aujourd'hui, il y a seulement 14 pays dans le monde qui ont encore la monarchie britannique comme monarchie constitutionnelle, dont le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Jamaïque. Mais les choses changent. Alors, je viens de parler de Antigua et Barbuda, mais la Barbade l'an dernier est devenue une république. William et Kate ont été hués lors d'une visite en mars dernier en Jamaïque. Après le décès de la reine, le débat sur la monarchie va sûrement recommencer en Australie, parce que ça n'a jamais été là, réglé là, et il y a un débat qui est encore très présent. Au Canada, je rappelle qu'avant même le décès de la reine, 68% des Canadiens dans un sondage disaient qu'ils ne voulaient pas de Charles comme successeur. Donc, est-ce qu'il y aura un espèce de mouvement, justement, qui va se lancer au cours des prochaines années, diminuant d'autant le prestige de la Grande-Bretagne? On verra. Puis, parlons du Commonwealth, hein, parce que c'est une organisation qui a été créée en 1949 et qui devait remplacer l'Empire par une forme de partenariat. Aujourd'hui, c'est un organisme international extrêmement important, 56 pays membres, dont deux pays francophones, le Gabon et le Togo, qui sont arrivés en juin dernier. Quel sera l'avenir de cette organisation qui regroupe 2,4 milliards d'habitants sur 5 continents et dont l'existence, il faut le dire, Paul, un peu comme l'Organisation internationale de la francophonie, ces deux organisations-là, qui sont nées un peu dans une époque post-coloniale, quel va être leur avenir? Élisabeth, je l'ai dit, réussit à maintenir tout ça en place, surtout parce qu'on n'osait peut-être pas contrarier cette dame attachante, mais le roi Charles n'a pas le même ascendant. Sous le règne de la reine Élisabeth, la monarchie contribue à maintenir le poids et l'influence de la Grande-Bretagne à l'étranger. Qu'en sera-t-il avec Charles? Je pense que c'est une des questions de son nouveau règne qui est très importante, et c'est l'impact de la Grande-Bretagne dans le monde qui est impliqué dans ça.
Parlons des États-Unis. Hier, on soulignait le 21e anniversaire des attentats du 11 septembre, et quand on regarde ça avec le recul, puis peut-être des gens l'oublient, mais l'ennemi de l'époque, c'était vraiment le fanatisme islamique.
Ouais, on se rappelle, entre 19 terroristes d'Al-Qaïda qui ont fait plus de 3 000 morts en une journée, Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de noter que ça fait seulement 21 ans, mais la menace terroriste islamique n'est plus aussi présente du tout comme priorité aux États-Unis. Au contraire, ce qui est la menace la plus grave, selon les sondages, pour les Américains, c'est la sécurité intérieure, c'est la violence politique intérieure. Il y a eu un sondage CBS News, YouGov, la semaine dernière, qui montre que près de 80% des Américains craignent que la violence politique intérieure devienne la principale menace au cours des prochaines années. Donc, un changement du tout au tout en quelques années, évidemment accentué par le traumatisme du 6 janvier 2021, l'attaque du Capitole, mais aussi, je pense qu'il faut le dire, par toute l'évolution assez négative du débat politique interne aux États-Unis depuis Donald Trump. Le sondage montre d'ailleurs que plus la moitié des démocrates ou des républicains considèrent leurs opposants politiques comme des ennemis. Donc, c'est pas un opposant politique, c'est un ennemi. 54% des répondants qui disent que dans une génération, l'Amérique sera moins démocratique que maintenant. Donc, c'est vraiment une grande préoccupation qui est celle de M. Biden. On a vu son discours du 1er septembre à Philadelphie hier au cours d'une cérémonie au Pentagone pour souligner l'anniversaire du 11 septembre 2001. Il a dit « Ce n'est pas assez de se lever une fois par année ou à quelques occasions pour proclamer notre attachement à la démocratie. C'est ce qu'on devrait faire tous les jours. » Encore une fois, il a lancé des flèches sans le nommer à la personne qui est dans l'ombre de tout ça et qui a changé le ton du dialogue politique aux États-Unis, c'est-à-dire l'ancien président Trump. Puis ce qui est important aussi, en terminant, Paul, c'est que l'Amérique, c'est encore aujourd'hui, et puis c'est surtout M. Biden qui veut le faire, un modèle en termes de liberté et démocratie, le champion de la démocratie dans le monde, mais le fait que le climat politique se détériore à ce point-là, à l'intérieur des États-Unis, a aussi des répercussions négatives dans le monde. J'en cite un exemple, on n'a qu'à regarder ce qui se passe au Brésil, qui est la plus grande démocratie d'Amérique latine, où le président Jair Bolsonaro, un admirateur de Trump, un ancien militaire, qui est en arrière dans les sondages de plus de 10 points face à Lula, son adversaire, pour les prochaines élections du 2 octobre prochain, les élections présidentielles, ben déjà, il commence à dire publiquement « Les vrais sondages, je les ai et ils me donnent gagnant. Et si je ne suis pas élu, il invitera ses partisans à dénoncer la fraude électorale. » Donc, à l'avance,
ça donne le ton, ouais.
Ça donne le ton. Mais donc, c'est l'impact extrêmement négatif du ton de la politique intérieure américaine à l'étranger.
Merci Jean-François, bonne journée.
Bonne journée.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Vendredi, la revue scientifique Science publiait une nouvelle étude concernant les impacts qui, dit-on, sont presque dans certains cas irréversibles, catastrophiques, suite à ces nombreux changements climatiques. Autrement dit, étude après étude, on confirme que la tendance se poursuit et que là, on nous explique qu'on a peut-être atteint dans certains coins ce qu'on appelle un point de bascule et donc d'amener des dommages qui seraient irréversibles. Alain Bourque est avec nous, climatologue, pardon, et directeur général d'Ouranos. Monsieur Bourque, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que ça veut dire, pour que les gens comprennent bien, là, que dans certains coins du monde, on a atteint ce qu'on appelle un point de bascule?
En fait, un point de bascule, c'est un phénomène de rétroaction qui provoque une amplification, un genre d'effet domino. Soit un effet domino qui accélère encore plus les changements climatiques, donc qui aggrave la situation, ou encore un effet domino qui accélère les impacts, les conséquences des changements climatiques. Donc, un exemple pour le premier, là, c'est le pergélisol, par exemple, en Russie, qui pourrait potentiellement fondre très rapidement. Ça émet du méthane, ce qui provoque une accélération supplémentaire imprévue des changements climatiques. Et puis, un exemple, là, pour l'aggravation des impacts, ben, c'est la fonte des glaciers au Groenland ou en Antarctique, où là, en soi, ça change pas le futur du climat, mais le niveau de la mer va continuer à monter de façon très importante au cours des siècles à venir.
Mais quand on ajoute, là, je faisais le tour là, de ces différentes zones qui sont ciblées, la disparition des coraux, par exemple, concrètement, c'est quoi l'impact sur les gens qui nous écoutent aujourd'hui?
Mais en fait, ça vient complètement transformer des écosystèmes naturels majeurs. Ça vient aussi changer les bilans de gaz à effet de serre qui se promènent dans l'océan, etc. Donc, ça apparaît. Ça, c'est un exemple là, de point de bascule qui est davantage régional, mais qui a des conséquences planétaires au niveau océanique. Il y en a aussi au Canada, là, comme par exemple, si on voit le couvert de glace de l'Arctique complètement disparaître pendant la saison hivernale, ça vient changer le système climatique, la trajectoire des systèmes météorologiques, etc., qui font en sorte que, à un moment donné, tous les individus de la planète sont influencés par ces changements-là.
Bon, quand on dit non seulement c'est irréversible, mais ça peut avoir un facteur accélérant, ça veut dire que malgré tous les efforts qu'on pourrait faire, là, puis on est en pleine campagne électorale avec des promesses pour réduire les gaz à effet de serre d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, dans certains coins, il est comme déjà trop tard.
Oui, ben effectivement. Donc, l'Arctique fait la différence entre trois types de points de bascule. Un premier point de bascule qui est déjà à risque de se produire à tout moment parce que la température planétaire a déjà augmenté de 1,2 degrés Celsius. Donc, ça, c'est les points de bascule sous 2 degrés Celsius. Ça, ce sont des points de bascule qui, malheureusement, là, ils peuvent se produire un peu n'importe quand et, malheureusement, incluent le Groenland et l'Antarctique. Donc, c'est très inquiétant pour le rehaussement du niveau de la mer. Par contre, il y a d'autres points de bascule qui auront davantage tendance à se produire si les températures planétaires augmentent de 2 à 4 degrés Celsius et certains points de bascule à plus de 4 degrés Celsius. Donc, ça rappelle l'importance de tenter de contrôler les émissions de gaz à effet de serre le plus possible pour éviter ces deux dernières catégories-là de points de bascule importants, alors que ben, il y a une partie du changement climatique qui est déjà en cours, et donc, pour ça, il va falloir apprendre à vivre avec ces changements-là. Par exemple, en zone côtière, c'est clair qu'on peut pas continuer à s'entêter, à se battre contre la mer qui, avec ses vagues, frappe sur les infrastructures ou frappe sur les falaises, parfois même frappe sur les maisons. Va falloir quitter beaucoup de ces zones côtières-là pour s'adapter, pour apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité dont, comme on dit encore, là, une partie est devenue malheureusement un petit peu incontournable.
Merci beaucoup, M. Bourque. Bonne journée.
C'est un plaisir.
Merci, au revoir. Alain Bourque est climatologue, directeur général d'Ouranos. Et si j'avais à résumer la séquence des événements, c'est d'un côté, oui, la lutte, faut la faire pour réduire les gaz à effet de serre. M. Poilievre, si je prends cet exemple-là, lui dit, faut pas taxer les gens avec le carbone, par exemple, faut miser sur les technologies. Mais en même temps, les technologies ne peuvent pas tout faire. Donc, lutter contre ces gaz à effet de serre, puis en même temps, se préparer, notamment dans les régions qui sont les plus à risque. D'ailleurs, j'attire votre attention ce matin sur la presse où on nous dit que il y a déjà des contestations juridiques suite à la réglementation de la communauté métropolitaine de Montréal pour protéger les milieux naturels, les milieux humides. Ça, c'est grand, ça. C'est la couronne nord, couronne sud. Et là, vous avez des promoteurs à Saint-Bruno, ailleurs aussi, qui disent, ben on a des terrains, puis on veut pas perdre de valeur, puis il faut continuer le développement. Donc, on conteste et on attaque ces règlements. Alors, vous voyez, quand on parle de bataille là, pour protéger certains espaces, et plus tard dans l'émission, je vais recevoir le maire de Laval, Stéphane Boyer. Hey, on est loin de Gilles Vaillancourt. Là. On est passé d'un maire corrompu à un maire qui propose à des Lavallois des quartiers pas d'auto. Le titre de son livre, c'est « Des quartiers sans voiture ».
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Bon, il y a une lettre qui est envoyée par le directeur, enfin par Baseball Québec, concernant le comportement d'adultes, de parents. Il y a Martin Leclerc qui nous parle de ça sur le site de Radio-Canada. Puis c'est vrai que souvent, on revient sur l'attitude d'une minorité, mais bruyante, de parents qui font peur, qui intimident.
On parle de baseball avec Sylvain Saint-Don, là, le directeur technique de Baseball Québec, mais ça s'applique à pas mal tous les sports. Là,
Monsieur Saint-Don, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Pourquoi vous avez senti le besoin chez Baseball Québec là, d'envoyer cette note-là sur le comportement, disons, agressif de certains parents?
Ben, premièrement, c'est venu du fait qu'on avait beaucoup moins, au niveau de la fédération, on a une perte d'arbitre qui est frappante. Donc, les chiffres sont pas à notre faveur de ce côté-là. Puis en plus, on a une fédération qui progresse à chaque année. On a des augmentations de membership, mais on est très content de 6 à 7 %. Et depuis 2019, ben, on a eu une chute de 35 % de nos officiels. Donc, j'ai invité un peu les gens à dire, bon, ben, il y a un mur qui va se dresser devant nous, c'est sûr. On a une problématique majeure. Puis, j'ai commencé un peu à gratter l'histoire un petit peu, à regarder. J'étais sur les terrains de baseball pendant toute la saison dernière. Donc, j'ai vu des comportements, j'ai vu des choses qui se faisaient, etc. Donc, tout ça m'a fait en sorte qu'à un moment donné, je disais, OK, là, faut trouver le moyen de... Faut trouver le moyen d'attaquer ce problème-là. Puis
qu'est-ce que vous avez vu sur les qu'est-ce que vous avez vu sur les terrains?
Ben, je vous dirais beaucoup de Martin reflète bien ça dans son article, Martin Leclerc. Beaucoup de comportements agressifs, évidemment. Des phrases clés, t'es pourri l'arbitre, tu nous en dois une, là, un peu mafieux, un peu ses bars. Beaucoup de comportements comme ça. Puis des comportements qui m'agacent beaucoup personnellement. C'est des personnes qui sont souvent situées à 200, 300 pieds de l'action, puis que l'arbitre est à côté, puis eux autres juges qui ont mieux vu ce que l'arbitre a vu là. Et brièvement, le fait clé qui m'agace au plus haut point, c'est la fameuse déresponsabilisation que Martin évoque, qui a fait un peu le thème principal de mon texte. Dès qu'un jeune se fait tirer sur trois prises, il lève les bras dans les airs pour manifester son mécontentement. À ce moment-là, il y a une pluie d'insultes dans les estrades contre l'arbitre. Donc, c'est plus le jeune qui est coupable. Le nombre de fois j'entends un joueur échapper une balle puis dans les estrades, c'est pas ta faute, mais ça vaut avec lui à un moment donné.
Mais vous dites également, je pense que ça va plus loin que ça. Ça va même quand un entraîneur essaie de reprendre ou corriger un aspect du jeu d'un jeune. Le jeune le prend comme une critique puis une agression puis il va se plaindre à son père. Puis là, le père va voir le coach, puis engueule le coach, là.
Ouais, ben, c'est un point que Martin reflète par rapport au hockey, que je pense que c'est le directeur technique qui reflète ça un peu, là. On a tous nos problèmes inhérents dans chacun des sports, là. Le soccer, échappe pas en passant, là. Mais effectivement, là, la critique, est, il faut qu'elle soit excessivement constructive, qu'elle soit bien accueillie. Maintenant, c'est comme une atteinte à la... Puis, je suis pas sociologue, là, je veux pas me tarer de ce titre-là, là, mais c'est sûr que présentement, dans la société, le nombre de parents insatisfaits du traitement de leur enfant, puis le problème a doublé, parce que maintenant, tous les enfants ont quatre parents au lieu de deux. Donc, le problème a doublé depuis une couple d'années. C'est assez formidable de voir ça. Là.
Dites-moi, est-ce que ça va jusqu'à penser à interdire la présence de parents, là, je disais ce matin, au premier match puis au dernier match de la saison?
Ben, il y a plusieurs. Il va falloir créer des initiatives. Il faut qu'on trouve des trucs pour avoir une rétention. Parce que si ça peut être des matchs s'il n'y aura pas de parents, c'est sûr qu'on va parler des autres sports aussi. Le ministère va faire des rencontres à l'automne, justement, pour trouver des pistes de solutions. Ça peut en être une. D'autres matchs, pas d'arbitre. Anyway, on n'aura pas le choix. À un moment donné, on va en manquer. Fait que ça ne sera même pas une pénalité. Il n'y aura pas. Fait que ça peut être des matchs, pas d'arbitre. Arbitrez-vous entre vous autres, arrangez-vous. Il va falloir vraiment qu'on ait des mesures prises là-dedans. Puis, le gros problème, c'est la rétention, parce qu'on est capable d'avoir des officiels. Puis dans ma lettre ouverte, je fais un lien avec la fédération des high school américains, des écoles secondaires américaines, là, tous les sports confondus. C'est le nombre d'arbitres officiels qui n'atteignent pas leur troisième année. C'est 85% de leurs arbitres, de leurs officiels qui ne se rendent pas une troisième année.
Mais
ils
ça.
Sont écœurés, puis ils lâchent.
Ouais, non, c'est clair, mais la raison pour laquelle j'en parle, puis on en parle souvent, c'est parce qu'on a des parents qui nous écoutent, puis c'est un appel, disons, à la gestion de la colère puis des émotions. Tu sais, revenez-en, là, c'est une partie de baseball mineur, c'est une partie de hockey mineur, c'est une partie de soccer. Je veux dire, c'est pas la carrière professionnelle de l'enfant qui est en cause, là, tu sais. Donc, on a vu. M. Saint-Don, merci, bonne journée.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
As-tu pensé tantôt au cas de Normandin? Toi, t'étais jeune, OK? Tu t'en vas chez Normandin, là, tu travailles, puis tu te fais crier après.
La salle à manger est fermée.
Puis après ça, tu vas jouer au baseball, quelqu'un crie après toi parce que t'as échappé à la balle.
Je vais te conter, moi, on m'a raconté qu'une fois, il y avait un match de hockey, et un parent dans les estrades, un père, se mettait à crier après l'arbitre, mais criait toutes sortes d'affaires à l'arbitre. Alors, il y a un monsieur qui est allé s'asseoir à côté, savait qui était le fils de ce monsieur en question. S'est mis à crier après le joueur. « Hey, le 45, t'es bien pourri! T'es pas capable de faire une passe! » Là, le père a dit « Qu'est-ce que t'as à crier après mon fils? » Ben, là, l'arbitre, c'est mon fils, moi. Toi, tu cries après.
C'est bon, ça. C'est bon, ça fermé. 9h moins.
C'est 23.